Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui se pose tout un tas de questions. Qui sommes-nous vraiment? Cette émission est-elle bien réelle ou n'est-elle que le fruit de l'imagination perverse d'un démiurge omnipotent et barbu? Tous ces souvenirs de films dans nos esprits sont-ils bien vrais ou ont-ils été implantés dans nos mémoires pour faire de nous des cinéphiles dociles? Les androïdes rêvent-ils de séquelles tout pourraves? Ces interrogations surgiront peut-être dans la discussion que nous apprêtons à avoir autour de Blade Runner 2049, le seul, l'unique, dont on va causer avec les quatre réplicants de la critique réunis ici autour de la table à l'antenne Paris. Lélo, Jimmy Batista, salut Jimmy.
Salut Thomas.
Julien Dupuis, salut Julien.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Salut.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Réveille-toi David, qu'est-ce qui se passe?
Bonjour Thomas.
Bonjour Stéphane. C'est Nos Ciné, épisode 100. Et ouais, la centième, nom de Dieu. Oui, pardon, c'est parti tout seul. Bref, Blade Runner 2001, la centième quand même, c'est pas rien. Bref,
quel film, hein.
Quel film, attendez, ça ne nous rajeunit pas. Blade Runner 2049, difficile de passer à côté. Le film de Denis Villeneuve est partout en ce mois d'octobre, porté par une critique américaine dithyrambique, film qui donc ressuscite l'univers visuel du chef-d'œuvre de Ridley Scott de 1982, lui-même tiré du roman culte de Philip K. Dick. Villeneuve nous emmenant 30 ans après le premier film sur les pas de Kay, alias Ryan Gosling, un Blade Runner, donc un chasseur d'androïdes qu'on appelle les réplicants, enfin des anciens modèles de réplicants devenus clandestins puisque Kay lui-même est un androïde qui, alors qu'il s'emmerde un peu dans sa vie, exception faite de son histoire d'amour réciproque avec une intelligence artificielle baptisée Joy, c'est Anna de Armas, Kay donc va tomber sur un secret qui va l'emmener à la recherche du légendaire Rick Descartes, Harrison Ford évidemment, un ancien Blade Runner disparu dans la nature avec la réplicante dont il était tombé amoureux à l'époque. Une quête qui va les mettre dans le viseur de l'entreprise menée par Neander Wallace, c'est Jared Leto malheureusement, qui a remplacé la Tyrell Corporation du premier épisode dans la fabrication des réplicants, notamment la très méchante Love jouée par Sylvia Ox.
What do you want? I want to ask you some questions.
Et si vous aimez les infrabasses, vous serez servi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup tout au long du film qui est littéralement assourdissant, mais c'est là son moindre défaut. Certes, c'est assez joli, en même temps la photo est signée par Roger Deakins, mais c'est assez insupportable. C'est long comme un jour sans pain, la blague voulant que 2049, c'est en minutes le temps ressenti face au film, qui non seulement n'a pas grand-chose à raconter, mais est en plus traversé par toute la mort de Villeneuve qui se prend tour à tour pour Kubrick, Tarkovsky ou les deux à la fois. C'est assez pénible. Mais qu'en avez-vous pensé, vous, les amis?
T'as pas trop aimé, toi?
Non, ça va.
T'as fait la critique
C'est aussi mon métier, hein, quelque part. Julien, alors pour la petite anecdote, je révèle un peu les coulisses de cette émission. Julien, depuis qu'il est arrivé, ça fait une petite heure déjà, avant qu'on prépare cette émission,
pour la blague,
n'a pas voulu nous dire ce qu'il avait pensé.
Je trouve ça formidable. Non, moi j'ai la chance de ne pas avoir à payer mes places de cinéma. Je suis sorti déjà très énervé. Je pense que j'aurais payé, j'aurais cassé un siège. C'est pas bien pour la salle. Et c'est pas bien pour mon image, parce que je suis quand même quelqu'un de gentil, pacifiste. Non, mais voilà quoi.
Moi, j'ai payé deux fois parce que j'y suis allé ce matin à la séance de 9h et j'avais oublié mon pass UGC.
Ah oui.
Voilà.
Aïe, aïe, aïe. Putain,
je te parle. Je crois que c'est la meilleure anecdote autour de ce film. Julien, donc vas-y.
Non, mais plus
précisément.
Plus précisément, moi je me suis emmerdé comme un rat mort devant le film. C'est insupportable, c'est intenable et tout. Ce qui n'est pas très constructif hein, comme critique. Il faut essayer de comprendre pourquoi on s'emmerde comme ça. Et je pense qu'on s'emmerde parce que c'est un film mort. C'est un film qui n'a rien, c'est un film qui est pétri de peur en fait, qui ne propose rien, qui effectivement fait référence à des grands noms de la SF, peut-être à gauche, à droite, mais juste pour se donner des airs, qui n'a rien à raconter. Ça, c'est un énorme problème. Ça dure 2h45, je crois, quelque chose comme ça, avec le générique de fin qui est quand même très long. Mais je pense qu'il aurait pu très facilement sabrer une heure. Il y a une quantité incroyable de scènes qui ne servent strictement à rien, de redites, de personnages qui errent comme ça sans rien et sans qu'on ressente en fait l'ambiance mortifère en fait qui aurait pu émaner de là, puisque l'idée c'est de créer une espèce de monde stérile, là où le Blade Runner de Ridley Scott était un monde totalement foisonnant, en bien comme en mal, mais qui dégageait justement une ambiance de fin du monde quand même, malgré tout. Et là, il n'y a plus rien. Et moi, je suis pas trop d'accord sur le côté visuel. Bon, alors ce sont des questions qui sont extrêmement subjectives, hein, oui, à chaque fois. Fait. Mais il y a jamais, enfin moi, en tout cas, je n'ai jamais eu le sens de sidération que tu pouvais avoir dans le premier. À aucun moment, tu te dis, il y a une scène très spécifique où il y a le personnage de Kay, donc le personnage de Ryan Gosling, qui emmène sa petite amie artificielle dans
sa clé USB,
faire un tour dans un spinner qui lui dit ah, t'es prêt à voyager un petit peu, donc tu t'assois, tu dis bon bah ça y est, enfin je vais voir un peu la ville, à quoi ça ressemble, et tu te retrouves avec des aplats de gris les uns sur les autres, avec de temps en temps une petite tache de couleur ici ou là, et c'est sinistre, c'est entre un très mauvais Le Corbusier, on va dire, et puis une visite chez une ophtalmo bien équipée, certes, mais une ophtalmo quand même, quoi. Et c'est ça tout le temps, je veux dire, c'est plus de l'épure, en fait, à ce stade-là. Pour moi, c'est du vide, et ça correspond, en fait, avec ce script qui est aussi, je trouve, extrêmement creux et extrêmement vide. Ouais.
Alors vas-y David, tu t'es prêt, t'es dans les starting blocks.
Non, moi c'est ce que j'appellerais du cinéma plateau repas, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle scène, à n'importe quel moment, tu peux baisser les yeux sur tes spaghettis, les manger, relever le nez, il s'est rien passé entre temps, t'as rien loupé de l'histoire et t'as pas loupé beaucoup d'images. Et du coup, effectivement, il y a un problème de vide et de rythme dans l'ensemble du film. À la limite, moi ce que j'ai trouvé un petit peu intéressant, ce à quoi je m'accrochais, c'est le côté méta et le rapport qu'on peut avoir avec qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a existé, est-ce que ces personnages existent ou est-ce qu'ils sont creux, enfin je me faisais un peu de ce délire critique dans ma tête qui me maintenait éveillé, et en même temps moi je retrouve au-delà de, en fait finalement, le fait que ça soit la suite de Blade Runner a peut-être assez peu d'importance dans le film. Et je vois surtout un film de Denis Villeneuve, et pour moi, c'est ça le principal problème. C'est que pour moi, c'est un cinéaste qui enfin, je n'arrive pas à croire au fait qu'il croit à ce qu'il fait. Et il y a une séquence anodine qui illustre ça pour moi. À un moment, un personnage doit chercher dans un registre une page, une vieille entrée dans un gros registre qu'il feuillette, et donc il fait tourner les pages, ça dure un petit peu, il commence à regarder en détail parce qu'il doit être à la date de l'information qu'il recherche, et il tourne une page, deux pages, et puis après il continue à tourner un paquet de 40 pages, ce qui n'a aucun sens, pour à la fin arriver sur le fait que les pages ont été arrachées au milieu, c'est-à-dire que normalement s'il ouvre le bouquin, il l'ouvre sur ces pages arrachées, oui. Fatalement. Oui. Et en fait ce truc, c'est-à-dire que le personnage a fait semblant d'être le personnage qui cherche dans un registre, alors que ça n'a aucun sens par rapport à l'objet qu'il tient dans les mains. Et pour moi, le gros problème de Denis Villeneuve, c'est de filmer, et il y a ça dans toute sa filmographie, il filme des séquences, il ne comprend pas ce qui se joue pour ces personnages. Et je trouvais ça déjà catastrophique dans Prisoners, où il y a des séquences entières qui n'ont pas de sens dans la dramaturgie. Dans Sicario, il y a énormément de choses comme ça, donc c'est quelqu'un qui crée des atmosphères, des feelings, des ambiances visuelles, bien aidées par Roger Deakins sur ce dernier film.
Auquel
je suis pas du tout sensible, et j'ai peut-être une explication du fait de pas avoir de choc ou de sidération visuelle, c'est que je pense qu'il est important pour le ressentir d'être connecté au personnage, en fait d'être connecté à l'univers.
D'être en empathie.
Sauf que comme je me sens complètement à l'extérieur, j'arrive pas à croire à cet univers. Et je vois ce truc un peu fade, transparent, et donc je reviens à mon parallèle du plateau repas. Il y a cette séquence dans le film où Ryan Gosling se fait une petite potée et va projeter sur son truc dégueulasse l'image d'un bon repas concocté par sa femme virtuelle. Et voilà, pour moi c'est ça le film, quoi. C'est l'illusion d'un bon plat sur un paquet de nouilles dégueulasse, quoi.
Jimmy, pas le bon, les collègues là ils m'ont à peu près tout dit, hein, mais Mais ouais, ça, on peut même demander si ça va pas encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on peut spoiler directement et dire que le seul réplicant du film, c'est Denis Villeneuve, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est ça, c'est tout est mort, il y a rien qui se passe, et on a l'impression de regarder. Enfin, une fois de plus, j'en ai parlé la dernière fois aussi, mais derrière, tous les jouets derrière une vitrine, enfin, il s'amuse pas avec l'univers qu'il y a autour de lui, quoi. Il fait des petits trucs. La seule scène un peu sympa, c'est il y a une. Sans spoiler, mais c'est une baston entre
Harrison Ford,
par de flanc, Gosling et Harrison Ford qui se battent. Il y a Elvis en fond, quoi, et qui est en hologramme. Et c'est un peu, c'est le moment où on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Enfin, pas qu'il se passe quelque chose, mais au moins ça dérape un peu et que c'est un peu vivant, quoi. Mais autrement, effectivement, tout est tout le temps figé. Enfin, tout est monolithique, quoi. C'est et les deux scènes avec Jared Leto, faut s'il faut en parler, sont infernales, mais vraiment infernales. C'est vraiment genre
vraiment problématique.
C'est vraiment de la roue libre. On a l'impression qu'il improvise son texte et qu'il sort les trucs les plus foireux possibles.
Qui revient de Coachella, juste voilà. Après. Qui a pris plein de produits.
Et voilà quoi. Et c'est. Il y a oui, il y a aussi parce que moi, je suis dans mon entourage. Je suis pas un gros fan de Blade Runner. C'est un film que j'aime bien, mais j'en suis pas fan absolu. Mais dans mon entourage, j'en ai vu beaucoup de fans et j'ai beaucoup notamment de gens qui ont été très marqués par ou Harrison Ford ou Sean Young. Oui. Et Sean Young, pour le coup, les gens qui ont été marqués par Sean Young, ils peuvent se tirer une balle tout de suite. Oui, quoi, parce qu'en gros, elle revient, mais elle revient pas. Enfin, c'est
et
horrible.
Elle se tire une balle. Et
elle se fait tirer une balle. Oui, voilà. C'est pas aussi. Elle qui la tire. Mais voilà. Non, cette scène-là est vraiment, vraiment éprouvante le coup. Stéphane.
Moi, j'ai du mal à déconnecter quand même parce que l'existence du projet, elle est due à Blade Runner, tout simplement. C'est une suite, donc ça c'est cohérent. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est la confirmation même en fait que Blade Runner n'a pas besoin de suite. Ça a toujours été une mauvaise idée, je pense. C'est une idée avec laquelle Ridley Scott a joué depuis longtemps. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début des années 90, il avait annoncé qu'il voulait faire ça avec Gérard Depardieu, ce qui déjà en fait place quand même le truc complètement aberrant.
Mais ça aurait sa période... été un peu plus rigolo.
Non, mais c'était sa période Barilla, tu vois, avec machin. Et t'imagines le truc, quoi. T'as Depardieu qui fait des origamis de saucisson, tu vois, et qui les pose sur la table, quoi, tu vois. Et pour parler avec Descartes.
Ça aurait été vachement mieux.
Mais j'achète. Non, mais il se passe quelque chose, il y a de la chair.
Devenons sérieux. Le truc, c'est que le film commence avec le même plan d'ouverture que Blade Runner, si tu veux, l'œil qui s'ouvre. Et il y a la grosse distinction, et pour moi, c'est la note d'intention du film, en fait, c'est que quand tu nous vois, en fait, l'œil dans Blade Runner, c'est tu vois la ville. Complètement, tu vois,
les flammes,
tu vois la vie en fait. Et là, l'œil s'ouvre et il n'y a rien. Rien. Le mec voit rien, il n'y a pas de reflet. Et en fait, si tu veux, le plan suivant, c'est quoi? C'est un plan de la Californie. Je mets les guillemets pour ceux qui ne voient pas, hein, pour l'audio. Juste, il ne t'achète pas une seule seconde. Et c'est ça le problème avec ce film, c'est que tu n'achètes jamais rien. Le premier Blade Runner, effectivement, comme disait Julien, c'est foisonnant. J'irais même jusqu'à dire, quand t'es gosse et que tu découvres ça, que tu te le prends en pleine gueule, et je pense que c'est comme ça que ça a été pensé le film, t'as l'impression que c'était ça le futur. Tu t'es dit, pour la première fois, parce que tu sais que Star Wars, c'est pas le futur, tu te dis pas Star Wars, c'est le futur, tu rêves, t'es ailleurs, tu vois. Mais quand tu regardes Blade Runner, tu te dis, c'est ça, dans 20-30 ans, c'est ça mon futur. Ouais. Mon futur, ça va être ce truc complètement tentaculaire, cette ville énorme, les voitures qui volent, le truc comme ça, etc.
Comme avec Retour le futur 2, pareil.
Voilà, mais Blade Runner avec une vraie. Enfin, sans les gags. Tu vois, le truc, c'est que voilà, donc tu te dis, c'est ça, même si avec le temps, on a bien compris que ça serait pas ça, c'est pas grave, en fait, c'était ça qui était important. Ce qui était important, c'est que tu y croyais vraiment et que tu y crois toujours quand tu regardes le film, en fait, aujourd'hui.
Oui, c'est ça qui est
important. Le futur de Blade Runner 2049, si tu t'achètes pas une seconde que ça va ressembler à ça, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, comme le disait Julien, c'est un film, effectivement, je pense que tu peux vraiment littéralement, si tu gardes tout ce qui fait avancer l'histoire, l'intrigue, et elle est quand même rachitique, je pense que le film fait 1h20. Et alors, si tu fais jouer les gens à vitesse normale, les acteurs à vitesse normale, le film fait 45 minutes. Parce que le truc, c'est ça aussi, c'est-à-dire sous prétexte de poser une ambiance, en fait, en gros, t'as Ryan Gosling qui marche à deux à l'heure, etc., etc. Et enfin, alors je suis désolé, donc si vous voulez pas vous faire spoiler la gueule,
c'est déjà fait.
Je pense qu'on a passé
on a atteint le nouveau, je trouve, néant de la narration, c'est-à-dire qu'on te fait croire qu'il y a un twist et en fait, il n'y en a pas.
Ouais.
Et alors là, c'est carrément, et c'est 2h40, ça merde, putain. Tu vois, donc le truc, c'est qu'on te fait croire qu'il y a un twist et il n'y en a pas. Et parce que tu te dis, d'accord, c'est ça. Mais en fait, les mecs, ton gris, ils ont dit, t'attendais un twist, mais en fait, il n'y en a pas. Tu vois. Et voilà. Donc, et moi, j'aimerais beaucoup voir, j'aurais bien aimé qu'ils aient tourné un easter egg, tu vois, avec la scène après la scène finale. tu vois. C'est-à-dire Harrison Ford qui sort de là où il rentre et qui fait « Ah merde !» et qui a oublié le pauvre Ryan Gosling sur, la, sur les marches. Tu vois, donc, parce que voilà, c'est
celle
c'est...
qui est horrible de médiocrité, en plus, parce qu'ils te remettent la petite musique de Rutger Hauer quand il faisait son petit monologue sur les larmes.
Mais voilà, c'est choses qui reviennent de manière hyper lourde. Genre, il y a une quasi-décale de Daryl Hannah.
Bien sûr.
Mackenzie, je ne sais plus son nom, qui fait une espèce de prostituée. Oui. C'est la même. Il y a plein de choses qui reviennent, mais c'est un stade, en plus, c'est vraiment plus gênant. Le petit cheval de bois qui remplace l'origami.
Oui, c'est la totale.
Moi, j'aurais pu accepter
Edward
que...
Edward James Olmos qui a 154 ans.
Cette scène, elle est terrible. Tu vois, tu t'attends dans l'univers de Balerin. Parce que, si tu veux, moi, je peux accepter que le mec ait tout misé sur l'ambiance, qu'il soit foiré. Je peux accepter qu'il ait décidé de faire un film sur la stérilité de ce futur et qu'il se soit foiré. Et je peux accepter aussi qu'il ait décidé de jouer sur des personnages qui sont des coquilles vides, puisque le personnage de Ryan Gosling, pour le coup, c'est ça. Hein, dans le film, il est extrêmement passif, par exemple, comme personnage. Il subit tout le temps l'action. Oui. C'est très... Mais le problème, c'est que tout ça cumulé sans manque de talent et sans véritable proposition, ça t'aliène les spectateurs. Moi, je sais pas, le film vient de sortir en France, là, on va voir les résultats, mais je ne peux pas croire que le film puisse fonctionner en dehors du côté réflexe pavlovien d'aller voir un film qui s'appelle Blade Runner, parce que moi j'avais quand même malgré tout envie de le voir. C'est terrible, hein, mais j'aime tellement le premier film
tout ça.
Et je peux pas croire ça, parce qu'il y a un vrai problème de fond dramaturgique qui va encore au-delà de toutes les limites de Denis Villeneuve et tout. Ce film là n'est pas vivant, ne peut pas être vivant, et c'est foiré à la base. Et c'est la même chose avec le futur dont parlait Stéphane, c'est-à-dire que lui il est parti d'un principe que c'est le futur du premier Blade Runner, que c'est pas notre futur à nous, mais c'est vrai que du coup t'es encore plus déconnecté de ça.
C'est la preuve qu'il a pas compris.
Mais voilà, et puis surtout tu te dis, mais donc c'est pas mon futur. C'est même avec les problèmes écologiques qu'on traverse, qui sont extrêmement anxiogènes, pourtant Dieu sait qu'on baigne là-dedans, tu vois, au quotidien et tout, tu ne peux pas croire à ça. Tu ne peux pas te dire, ah bah oui, ça va être comme ça à un moment donné. Mais et tout ça, ça fait que tu te retrouves face à une espèce d'objet
David
mort.
Sur la question du mort et du vivant, il y a quand même un petit aspect sur le personnage de Ryan Gosling que je trouve intéressant, mais qui est pas mené jusqu'au bout. C'est pour moi, il est dans la lignée de son personnage de Drive, où en fait il joue une sorte de pantin neurasthénique qui rêve de devenir un vrai petit garçon. Pour moi, c'est une sorte d'alter ego de Pinocchio qui est développé
là, c'est
dans le
dit
film.
Clairement, en plus.
Et il y a cette scène qui est ratée, je trouve, dans Blade Runner, qui aurait pu être vraiment très émouvante. C'est le moment où il réalise que ce en quoi il rêve, c'est pas ça, quoi. Il se rêve comme le fils de
Harrison
Ford. Et ce moment, enfin, je trouve cette idée intéressante. Non, ça aurait
terrible.
Pu faire un bon moment, mais la scène est ratée, quoi. Enfin, et même tout l'arc narratif.
Ça gère les limites de Gosling. Alors, tu les vois là, tu te les mords. Mais il est rigolo, hein. C'est une machine à même, hein, dans le film, à mon avis. Tout le temps, il fait des tronches, pas possible, quoi.
Il fait une petite scène à la Nicolas Cage aussi quand il crie.
Bah, c'est déjà un même la photo. La photo, il s'est pris un lion par Harrison Ford là, qui fait un peu le tour de Twitter.
Du coup, il est dans un minimalisme.
Mais là, pour le coup, il réagit, tu vois.
Non, le truc, c'est qu'il y a. Tu parlais de la réception critique qui n'est pas que aux États-Unis, en France aussi.
Non, en France aussi, ça commence là. Ouais. Mais c'était d'abord aux États-Unis.
Je crois que le premier à écrire, c'est le parrain 2 du film de science-fiction.
Il faut oser.
Pour moi, c'est le Pirate des Caraïbes 3 de la suite inutile que tu ne sais pas, que tu ne veux pas voir, en fait. Tu vois, donc c'est un peu...
Je ne sais pas ce qu'il y a dans la flotte chez Première, mais c'est dur.
Je ne sais pas. En fait, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a sûrement, en fait, toutes les choses qui vont être avancées, c'est la photo de Dickens, ce genre de choses, etc. Mais le truc avec la photo de Dickens, c'est que ok, tu peux prétendre, en fait, si tu veux, que la photo de Dickens, comme le disait Julien, de manière subjective, te plaît, elle est belle, tu vois, ok. Mais le truc, c'est que, d'accord, Dickens, c'est pas Villeneuve, c'est pas le réalisateur.
Non.
Le truc, c'est que même s'il a un ascendant assez poussé, je veux dire, Dickens, il faut qu'il ait... La photo, elle éclaire quoi? C'est ça, la question, tu vois. Oui. Qu'est-ce qu'on éclaire exactement, quoi, tu vois. Et quand t'éclaires le flanc, le vide, tu vois, je veux dire...
Ce qui est littéralement le cas
Ce qui est littéralement le cas dans la scène finale, enfin, la scène de baston finale, bah voilà, moi, je me dis, mais c'est pas possible. Tu prends... Parce qu'encore une fois, je suis désolé, mais c'est sur ça qu'ils le vendent, c'est ce que c'est censé être, c'est la suite de Blade Runner. Donc, en gros, quand tu parles de la suite de Blade Runner, tu parles, grosso modo, d'un des films les plus travaillés en termes de production design, en fait, et c'est ce qui les gens retiennent en fait vraiment dans Blade Runner, tu vois, plus qu'Harrison Ford, plus que tout ça, c'est vraiment tu retiens la ville, tu retiens
l'ambiance, le ressenti,
voilà tout ça quoi. Et le truc c'est que quand le mec ne filme pas ça, c'est-à-dire quand il filme pas le logo Atari, ce qui est complètement ridicule en 2017 de se dire qu'Atari va exister en 2049, tu vois. Mais admettons, tu vois,
je veux dire quand il filme existait pas toujours en 2019 dans le premier Blade Runner. Ouais, pourquoi pas à la limite.
Non voilà. Admettons toi quand il filme pas ça, quand il filme pas une voiture volante, tu vois, bah il filme rien. Mm. C'est-à-dire il filme des champs de la purée de pois rouge dans un simili Las Vegas, tu vois. Il filme comment dire littéralement la nuit et la mer, tu vois. Je veux dire mais comment dire,
dans pas la mer justement. Enfin, la nuit,
et tu te comprends qu'ils sont dans la mer à un moment donné ou dans la flotte. Donc voilà, c'est des trucs. C'est un film où il y a 4 persos littéralement. Hein. Tu sais, 4 persos.
3,5.
Ouais, mais, voilà. Et dont un des persos, tu l'as cité, la nana, là, qui pour moi, est l'un des pires clichetons de la série Z à la Jason Statham, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je vois cette nana qui arrive.
Tu parles de Love.
Non, pas de Love, de l'androïde.
Joy ou Love?
Love, ouais, c'est Love. C'est ça,
celle qui met des nions.
Ouais, voilà. Quand je vois ça, j'ai l'impression de voir Double Impact. Tu vois, j'ai l'impression de voir la nana qui... C'était mieux dans Double Impact. mais le truc, c'est que c'est ça. Et en fait, du coup, le parrain 2, Double Impact, tu vois.
Non, mais
Double Impact 2.
Là où moi, j'arrive pas à me dire que tout ce truc de vide, en fait, dans le film, ne cache pas l'incompétence, en fait, de Villeneuve, c'est qu'il y a une petite scène, notamment, qui se passe au sol, en fait, dans la ville, au cœur de la ville, où basiquement, il essaye de te refaire la scène de bouffe de Descartes et tout, qui était arrivé un truc de fou. C'est pauvre. Ouais. Tu sens que ça a été tourné en Europe de l'Est. Moi, j'ai l'impression, je crois que c'est Denis Gassner qui a fait les décors. C'est qu'un mec possible. Talentueux, quoi, normalement. Et personnellement, je trouve ça, mais c'est cheap, quoi. Je veux dire, il y a 3 hologrammes. Tu n'as pas l'impression que la ville puisse continuer derrière le bout d'angle d'immeuble que tu as derrière. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de monde, en fait, derrière tout ça.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé sur Blade Runner 2049 et qui fait de la
c'est
peine.
C'est la scène de sexe à 2,5.
Non, alors ça on s'en fout.
Ça va venir, tu vas en parler après, Jimmy.
C'est l'équivalent de la scène de flûte dans Alien Covenant. Quoi.
En termes de gênance, tu veux dire.
En termes d'embarras.
En termes d'embarras, mais c'est vrai qu'elle est assez gênante. Elle est moins chargée homoérotiquement, mais.
Elle est très balourde surtout. Et puis, quand tu as vu des films comme Fantôme contre Fantôme qui jouaient justement visuellement sur ces personnages qui en traversent d'autres, tu te dis putain, waouh, on est très très loin, quoi. Bah ouais, malheureusement, c'est vrai qu'on est un peu plus proche de Beau Ghost, quoi.
Ça manque de poterie, c'est moins érotique.
Non, Stéphane. On n'a pas parlé, parce qu'on parle de gênance là, mais on n'a pas parlé d'Harrison Ford, quoi.
C'est vrai qu'on a bien évité le sujet.
Ouais, et le problème, c'est qu'il ne faut pas. Tu vois, il ne faut pas l'éviter le sujet, parce que même s'il arrive au bout de 2 heures de film.
C'est vrai, il faut le dire aux gens.
Ouais,
c'est vrai,
déjà, et qu'il a en gros 3 scènes. Le problème d'Harrison Ford, qui est bon, le problème d'Harrison Ford depuis toujours, hein, ceci étant dit, mais qui est démonstratif de comment dire, enfin, depuis toujours, depuis 25 ans, c'est qu'il n'en a plus rien à foutre. Ça, c'est évident quand tu le regardes et Warner ou Sony ont beau te parler de Oscar Buzz sur le perso, t'as envie de leur dire mais ça va pas ou quoi les mecs. Enfin c'est comme la fois où Paramount voulait envoyer Transformers 4 aux Oscars, tu vois. Enfin c'est tu te dis mais vous avez fumé, c'est pas possible quoi. Et alors le truc c'est que ça te pose en fait la problématique du film. C'est-à-dire le premier film, le premier Blade Runner, parce qu'on en parle finalement peu hein, quand on est là en train de
non,
c'est
on que est c'est, tellement
un,
loin.
C'est un oui on en est tellement loin évidemment, mais c'est justement ces démonstratifs là, c'est que t'as beau avoir le même acteur, tu vois, 30 ans après, 35 ans après. T'as plus le même perso en fait, littéralement. C'est-à-dire que pour moi, quand je regarde le premier film, je suis en train de voir un film noir. Je suis en train de voir Bogart dans le futur, tu vois. C'est le truc qui fait kiffer aussi quand t'es gosse, tu vois. Tu te dis voilà. Et là, en fait, t'as l'impression qu'on t'a montré Bogart 35 ans après Le Grand Sommeil en polo Lacoste et en tu vois. Enfin, donc
c'est pas des cartes. Ça c'est clair, c'est impossible. T'as énormément de mal à dire que c'est le même personnage. Et en plus, la façon qu'il a de l'introduire, enfin, je veux dire, quand tu vas rechercher un mec comme Harrison Ford pour reprendre un de ses rôles iconiques et tout, t'essayes de le travailler. Indiana Jones 4, c'est une horreur, mais la scène, la différence entre Denis Villeneuve et un mec comme Spielberg, c'est que la scène où il réapparaît dans Indy 4,
le plan,
le film, il est pourri, hein, mais le plan, il fonctionne.
Oui.
Il est préparé. Non, c'est quelque chose, c'est quelque chose que tu attends. Et là, pas du tout. Enfin, la rentrée en scène que tu attends longtemps, parce que comme le disait Stéphane, il faut attendre 2 heures, te farcir 2 heures de vide. T'as au moins 5 scènes dialoguées avec sa chef, là, dans un décor minable de bureau de commissariat. Quand tu te souviens de la scène de commissariat dans le premier, que tu compares à ça avec les interrupteurs chromés que tu trouves le grand, que tu trouves dans ton bricorama du coin, mais c'est ça. Ben, parce qu'au bout d'un moment, t'es obligé de te projeter dans les détails, c'est ça qui est important.
On tout fait sur cette émission.
Et quand tu le vois qui arrive comme ça, mais c'est déceptif au possible. Ils essayent d'avoir une petite entourloupette avec une citation de L'île au trésor, c'est
oui,
ça, hein,
c'est ça.
Qui est une espèce de truc, t'as vu, j'ai lu, mais ça marche pas du tout. Et puis surtout, il fait plus rien derrière, quoi. Et il a une incapacité en plus à jouer l'émotion sur la fin, notamment, qui est pareil. Belle machine à même aussi.
Ouais, complètement. Surtout la scène où il est en train de. Enfin, bon, on y va dans le spoil, on continue.
Ah ouais, ça fait un moment, là.
La scène où on comprend rien, justement, où ce qui se passe dans l'eau, avec une navette dans l'eau, machin, tout, l'eau qui monte. Il est pieds poings liés avec l'eau qui est en train de monter, et on dirait qu'il en a rien à foutre, quoi. Il est là, en train de regarder à droite à gauche, en train de dire quand est-ce que se termine cette scène, quoi. On dirait que tout a été filmé le même matin, en fait. Il est sapé en t-shirt Uniqlo, en jean, je sais pas quoi, et je sais pas, on dirait qu'il a été réveillé.
Ouais, c'est la grande théorie, Stephen Moïse.
Ah bah, moi, ma théorie, c'est Harrison Ford, il dit ouais, ok, je le fais, le film, il n'y a pas de problème, mais alors j'ai 3 conditions, quoi. J'utilise ma garde-robe, on tourne chez moi, à 14h quand je me lève. Ok,
c'est ça,
une prise.
C'est vraiment j'adore. Ça,
donc voilà, c'est vrai,
j'y pensais pendant tout le film.
Il en a rien à battre.
Ce qui est très rigolo, c'est que le premier Blade Runner, c'est un film qui abuse énormément. Il y a beaucoup de placements de produits, et c'est marrant parce que moi, je trouve que le placement de produits, quand il est dans un univers qui vit, ça me gêne pas, en fait. Ouais. Au contraire, ça me rajoute un surplus de réalité.
Là,
il y a beaucoup de placements de produits aussi, donc on peut dire que c'est aussi quelque part un hommage au premier film. Mais c'est ultra voyant, et personnellement, j'ai trouvé ça très gênant, quoi. Les références à Peugeot, au whisky et tout, c'est...
Je suis plus gêné par dans l'absolu, l'esthétique, c'est-à-dire que pour moi, en fait, je me suis vraiment rendu compte de ça quand je regardais le film, c'est qu'en fait, je me suis dit, ah, c'est ça, en fait, Denis Villeneuve, c'est-à-dire déjà sur Premier Contact, chez Cario et compagnie, quoi. C'est en fait, il filme pour moi littéralement comme les démos 4K que tu vois à la Fnac, en fait, si tu veux de télé 4K. C'est-à-dire, on va te prendre les mêmes plans, les mêmes trucs pour que tout le monde puisse contraster sa télé comme il le veut, tu vois, avec ce genre de bande démo, tu vois. Et vraiment, j'ai ce sentiment, c'est-à-dire que la meuf, elle soit contente, et ça va avec tout ce qu'il choisit, en fait, de filmer. Hein. Quand la nana, elle habite dans un environnement Ikea, dans Premier Contact, et bah, Ryan Gosling, c'est pareil, même si les deux persos, ils ont littéralement rien à voir, tu vois. Ouais. Donc ça veut juste dire que si tu suis la déduction de la chose, c'est que Denis Villeneuve habite dans un appartement Ikea, quoi, tu vois. Mais bon, j'extrapole, tu vois. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, t'as l'impression de voir un film qui est complètement normé, j'ai envie de dire... dans l'air du temps, si tu veux, qui va, à mon avis, mais littéralement complètement disparaître telles des larmes, tu vois,
dans la pluie,
tu vois, voilà, pour citer, quoi. Mais voilà, je pense vraiment que c'est un film qui va disparaître. Donc quand j'entends dire que c'est mieux que l'original, je me pose vraiment la question de si ce film a vraiment été aimé. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que Blade Runner, c'est un film qui n'a pas été aimé quand c'est sorti.
Oui, bien sûr.
C'est un film qui a eu du culte très rapidement derrière, pendant des années qui ont suivi. Que Ridley Scott a refait plusieurs fois aussi, si tu veux, remonter, etc., etc.
Trois fois.
Quand tu vois ce film arriver, et que les mecs te disent, ça encule le premier, tu vois, tu te dis, mais vous avez aimé le premier,
ce film
n'existerait même pas sur le premier. Donc comment est-ce que vous pouvez balancer un truc comme ça, quoi.
C'est intéressant qu'il dit, parce qu'effectivement, le culte de Blade Runner, ça a pris du temps à se mettre. C'est pas un truc qui s'est fait. Là, c'est vraiment genre, on te vend le truc, et genre, dès le jour où c'est sorti,
c'est culte prémâché.
Parce que pendant que ça sort, Blade Runner, c'était genre, il a fallu.
C'est hallucinant cet accueil critique, c'est vrai.
Alors que on a tous en mémoire l'article de Philippe Manœuvre dans Metal Hurlant, où il disait qu'ils avaient tué une deuxième fois la deuxième mort de Philippe K. Dick,
voilà, qu'il continue d'assumer.
Oui, qu'il assume.
Surtout, c'était un jeu. On l'a pas pu le voir pendant presque 10 ans.
Il était très difficile à voir en vidéo.
C'était un cri de ralliement.
Oui, bien sûr.
Un vrai.
Ben celui-là, ce sera un petit péfoireux de ralliement, si vous me permettez. Avant de se quitter, comme toujours, une petite volée de recommandations. Alors, comme il n'y a que 2 films Blade Runner, du coup, on va on va sortir de l'univers, mais on peut rester dans la SF.
Moi, j'ai une reco dans l'univers.
Ce que vous voulez, super. Est-ce que c'est le jeu vidéo Blade Runner des années 90
non.
Parce qu'il était bien celui-là.
Stéphane. En fait, j'ai deux recos. Donc, je fais la première avant. C'est le livre.
C'est mieux de faire la première avant la deuxième.
Ouais,
bah,
je fais la deuxième d'abord. Je reviens à l'univers de Blade Runner. C'est okay. le bouquin, enfin Rokirama, le magazine Rokirama qui sort des livres, des hors-séries spéciaux une fois de temps en temps. On fait un hors-série sur Blade Runner qui est assez complet en fait. Je reprends pour voir les auteurs pour pas parce que je ne les connais pas. Ce n'est pas j'écris à Rokirama
Mais tu as l'honnêteté de dire que tu ne connais pas.
Voilà, mais je ne connais pas ces deux auteurs, quoi, qui sont. Alors, je ne vais pas les écorcher. Attends, parce qu'en plus, c'est maquetté sur la page. Romain Dubis et Ludovic Gottini, donc je ne les connais pas, mais qui ont fait quand même un travail pas mal, assez complet et archiviste. Mmh. Et c'est quand même un gros bouquin, hein, 150 pages, je crois, un truc comme ça. Et en gros, tu as quand même. Tu as une interview fleuve de Ridley Scott qui n'est pas d'eux, mais qui, est qui vient de Futur Noir, mais c'est la première trad française, donc c'est plutôt intéressant pour les gens qui ne parlent pas anglais, quoi. Mais tu as aussi David Snyder dedans et Sid Mead. Donc Sid Mead, hein, c'est comme ça qu'on ça se prononce, Julien.
Ouais. Side.
Ouais, autant pour moi. C'est assez complet. Voilà, moi, ils ont quelques. J'ai pas tout lu, hein, mais le truc que j'ai lu, il y a quelques théories. Ils oublient certains. Enfin, c'est pas qu'ils oublient, mais ils mettent un peu plus de côté certains noms comme David Webb Peoples, ce qui me permet d'arriver à ma deuxième reco en fait. Il y a ce bouquin Rokirama, et la deuxième reco en fait, c'est un film qui est pas un très bon film. mais qui est un film qui est dans l'univers de, mais qui est bien meilleur que Blade Runner quand même 2049, qui est dans l'univers de Blade Runner quoi, et qui s'appelle Soldier.
Ouais. Voilà. Non.
Mais écoute, c'est largement mieux que 2049. Non, mais c'est pas un très bon film, hein, c'est un ratage. Mais à la base,
c'est pas un très bon film.
Non, c'est pas un très bon film. Mais laisse-moi terminer.
Vas-y, fini.
Voilà. Déjà, c'est un film qui je trouve alors. Pour son auteur est certes en dessous de Event Horizon, mais largement en-dessus de tous les Resident Evil et compagnie.
Ça,
voilà.
C'est sûr.
C'est un film qui est peu vu, parce qu'il s'est pas sorti en France, en fait. C'est quasiment pas sorti dans le monde. Hein. Ça s'est tellement bidé aux États-Unis. Voilà. C'est un film qui a été extrêmement charcuté par la prod, et j'aimerais juste rappeler que à la base en fait, donc c'est un scénar de David Webb Peoples qui se passe dans le même univers, que Blade Runner. C'est ce qu'ils appelaient une sidequel, et qui est un projet qui pendant très longtemps a été développé par Clint Eastwood en fait. Petit fun fact, j'aime bien ce, je le
balance,
voilà. Le truc qui était rigolo, c'est que c'est Paul W.S. Anderson pardon, ouais, qui me l'a dit le premier jour de tournage en fait. Clint Eastwood s'est pointé derrière la caméra, à regarder,
ce que faisait
Paul Anderson, et lui a dit « Don't fuck it up, kid ». Tu vois, parce que c'est, en gros, si tu veux, ce projet, ce Soldier, c'était, c'était le impitoyable de la SF, en fait. Ouais. C'était la même logique. Donc, à mon avis, j'ai pas lu le scénar d'origine, mais à mon avis, c'est un très grand scénar pour qu'un mec comme Eastwood s'y soit intéressé.
C'est un scénar dont il est très fier, David Webb.
En plus, voilà, donc d'où la reco intéressante. Donc arrêtez de me vanner et fermez vos gueules, merde, toi. Voilà. Et enfin, le truc, c'est que oui, c'est un ratage et il l'a fucké, le film, quoi, effectivement, malheureusement. Et avec le studio, en l'occurrence. Hein, je sais, pour en avoir parlé avec Paul Anderson, qu'il a des énormes regrets sur le film. D'accord. Et qu'il pense que ça aurait pu changer sa carrière s'ils avaient vraiment pu faire ce qu'ils voulaient faire. Je pense pas qu'il avait le niveau d'Eastwood, évidemment, pour faire impitoyable, mais bon, je pense que ça aurait pu être un film beaucoup plus intéressant.
Resident Evil.
Voilà. Je pense que ça aurait été un film beaucoup plus intéressant que ce qu'on a au final.
Il y aura peut-être un Soldier 2049. Hein. Tout espoir n'est pas perdu. qui a fait sa recose? Il n'y a que toi qui a commencé.
J'en ai plein.
T'en as plein.
Très rapidement, je vous conseille Dangerous Days, qui est le gros long documentaire en fait qu'on peut revoir là sur la nouvelle édition 4K de Blade Runner. Sur le net, et c'est gratoche, vous avez un Blade Runner sketchbook, donc c'est uniquement en ligne, mais qui compile en fait tous les artworks qui ont été faits, enfin une grosse partie en tout cas des dessins de production qui ont été faits pour le film, avec donc beaucoup de travaux de Side Meet. C'est vraiment c'est un régal et c'est gratoche. Et là, pour le coup, c'est pas gratoche, c'est des collecteurs, mais je pense qu'on peut les trouver. Il y avait un numéro du magazine américain Cinefex dédié à Blade Runner qui avait été traduit en français, je crois même, je me demande si c'est pas notre ami Rafik Djoumi qui avait traduit ce numéro-là, qui doit être encore trouvable, je pense, sur le net, si vous cherchez bien, et qui est formidable, en fait, sur la conception. C'est un vrai making-of en profondeur sur la conception du film, et c'est magique, en fait, vraiment littéralement les effets spéciaux du premier Blade Runner, donc c'est super intéressant. Et ma dernière, c'était un numéro de l'écran fantastique qui était sorti aussi lors de la sortie française française de Blade Runner qui est ultra complet avec plein d'interviews de toute l'équipe du film. À l'époque, l'écran fantastique faisait ça et beaucoup de dessins de pré-production, etc. Et c'est une bible en fait. C'est comme un beau MOOC en fait. C'est l'équivalent du numéro spécial de Metal Hurlant sur Conan le Barbare par exemple qu'avait fait Dionnet, je crois. Voilà.
David.
Moi j'ai une reco qui sort de l'univers mais qui est liée à travers Ryan Gosling, c'est un film de 2007 qui s'appelle, c'est une petite comédie romantique qui s'appelle Une fiancée pas comme les autres, Lars and the Real Girl anglais, et qui raconte un petit peu la même histoire que ce Blade Runner 2049. C'est du coup Ryan Gosling qui a une histoire d'amour avec une sex doll, ouais. Voilà, qui elle n'est pas vivante virtuel, mais en tout cas est une poupée gonflable géante, et il essaye de faire accepter l'idée à sa sœur et à sa famille qui vit à côté, et c'est plutôt pas mal du tout. Et pour le coup il a un personnage un peu plus complexe et un peu plus intéressant, et moi qui n'aime pas beaucoup Ryan Gosling depuis Drive, je trouve que dans ce film on voit qu'il a quand même quelques qualités.
Et Jimmy, pour finir.
Moi, je prends en tout cas aucun rapport. Ah. J'essaie de chercher le film le plus éloigné de Blade Runner 2049. Donc, c'est-à-dire un film fauché, vivant et dont personne n'a rien à foutre. Et donc là, c'est un film belge qui s'appelle Spit and Split. C'est un faux documentaire qui vient de sortir en Belgique, qui sortira peut-être en France d'ici peu, sur un groupe garage punk qui s'appelle The Experimental Tropic Blues Band, et qui en gros commence comme un documentaire. Tout ce qu'il y a de plus classique, avec un groupe sur la route qui s'emmerde et à qui il arrive des plans foireux, et qui très vite sombre dans un truc vraiment infernal et psychédélique. Et voilà, il ne faut pas en raconter plus, il faut vraiment le voir. Malheureusement, bon, c'est assez difficile à voir. Pour l'instant, la façon la plus simple de le voir, c'est d'acheter la BO du film, dans laquelle il y a un lien pour voir le film pendant 48 heures. Mais c'est vraiment un film incroyable. Enfin, c'est ce que j'ai vu de mieux depuis longtemps. De plus enthousiasmant, en tout cas. C'est très fauché. Ça a été tourné par un réalisateur belge qui s'appelle Jérôme Van de Vatine, avec une caméra pourrie, avec des gens qui sont extrêmement bons alors qu'ils ne sont pas acteurs. Enfin voilà, c'est
ce plus éloigné de possible, Blade Runner 2049. Voilà. Effectivement, tu as trouvé. Loin. Bravo Jimmy, tu as trouvé le plus loin possible. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public. Si vous voulez venir nous voir, info à retrouver donc sur binge.audio. Et on vous dit à très vite.
Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio, à partager à volonté.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.